Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 16h, ça commence.
Non, non, pas acquérir. Voyager pour t'appauvrir. Voilà ce dont tu as besoin.
Il est très possible à ce rythme que l'on en vienne enfin aux véritables questions de fond. Dis-moi avec qui tu couches, dis-moi surtout combien et je te dirai qui tu votes. Formule quasi mathématique qui a son pendant réciproque évidemment. Dis-moi pour qui tu votes et je t'en dirai de belles sur ta vie sexuelle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, cela fera vendre du papier et laissera à la politique tranquille et la sexualité en paix. Je veux dire, en réalité, on aura dit ça, on n'aura presque rien dit, on n'aura pas fait un pas. On voudrait passionner ce qui suppose critique et raison, on voudrait rationaliser ce qui mériterait lâcher prise et ressenti. À moins que depuis quelques semaines, malgré les attaques minables dont elle fut l'objet, et croyant de nouveau très fort à la souveraineté populaire, vous soyez retombés éperdument amoureux de la démocratie. Aux épanchés du vendredi, vous écoutez France Culture, il est 16h01 et c'est pas la peine de crier. L'image est celle d'une enfance sans filet, le Polaroid est quasi chanté. Au milieu, le voyage est plus large, plus long, mais il faut le reconnaître, quitte à se reconnaître dedans. Enfin, un cinquième poème de Zénobie à nous, avant de vous laisser pour quelques jours. Avant de vous laisser encore, le voyage décidément sera de la partie aujourd'hui, car Didier Flamand a choisi de lire « Le Grand Partout ». Vaste entreprise de l'écrivain, journaliste, essayiste américain William Tanner Follman. Ce livre est présenté comme un hymne à la clandestinité et au voyage, un hommage à la grande tradition des hobos dans la vieille Amérique. Didier Flamand choisit un extrait dans lequel la question « Où suis-je » est remplacée par celle plus pressante du « Qui suis-je ». Dernière étape de déballage, le grand partout de Follman, dans la voix de Didier Flamand. On écoute.
Pendant que Steve attendait dehors, car dans nos expéditions, il s'occupe de trouver les wagons et moi de plaire aux gens, le réceptionniste de l'hôtel a obtenu d'un certain Jude, après quelques négociations, qu'il nous conduise en voiture à Ogden, au sud, où l'espoir, comme notre atlas du resquilleur, nous proposait un trajet direct jusqu'à Sacramento. Jude croyait en la liberté, détestait les démocrates autant que les républicains et estimait que c'était la politique qui nous avait empêchés de tout déchirer en Irak. Son fils était là-bas pour former les soldats irakiens. Il lui avait expliqué qu'on serait en Iran avant Noël. Jude haïssait l'office de la chasse et de la pêche. Il haïssait ce que le gouvernement avait fait à Waco et à Ruby Bridge. Il adorait les petites villes de montagne où personne ne vous disait quoi faire. Ses principes étaient aussi lumineux que le métal argenté des tribunes lors du Cheyenne Frontier Days. Nous avons pris l'autoroute en direction du sud, troqué l'Idaho pour l'Utah et atteint les innombrables sorties autour d'Ogden. Aucun de nous ne sachant où se trouvait la gare de triage, c'est suggéré que nous essayions le centre-ville. Presque aussitôt, nous avons vu des rails qui s'élançaient vers l'est et vers l'ouest. Ensuite, il a simplement fallu nous approcher des plus vieux bâtiments de la ville et la toile d'araignée métallique s'est présentée à nous. Pour notre part, nous n'avions aucune envie de jouer les mouches. En effet, le triage d'Ogden était bondé et menaçant. Un hobo, un vieux de la vieille, l'assure. J'ai jamais eu que des emmerdes à Ogden. Par bonheur, un long train serpentait vers l'ouest et un camion de chantier attendait qu'il passe, ce qui signifiait que notre départ était imminent. Après avoir payé Jude et lui avoir rapidement serré la main, Steve et moi avons traversé à toutes jambes la vaste lumière inopportune des rails, conscients que même au risque d'être repérés par la tour de contrôle, plus vite nous quitterions les triages, plus nous serions en sécurité. Ainsi, nous sommes-nous retrouvés agrippés à l'échelle d'un autre wagon de produits chimiques, équipé celui-là d'une plateforme exiguë et d'un semblant de toit. Il n'y avait rien d'autre de disponible. Tapis dans la poussière de gypse, nous avons juste eu le temps de baisser la tête avant que le convoi démarre. Il était 11h30 du matin et il faisait 32 degrés. J'ai ressenti l'éternelle exultation, l'éternel soulagement. Non seulement nous avions fui Ogden, mais nous filions au rythme du train vers la montagne froide. Pour le moment, comme la voie suivait parallèlement la route 15, on avait droit au peuplier et à l'herbe de Gentle Street, où un homme tondait sa pelouse. Le train accéléra, et nous nous arrêtâmes dans divers petits triages ou sous-gares à trois voies, nos cœurs chavirant de peur devant chaque équipe de chantier ou véhicule blanc à l'horizon. Tel était le paradoxe. Pour devenir plus libres, nous succombions à la peur du premier quidam casqué. En outre, il faisait de plus en plus chaud, et nous commencions à nous demander si, Une fois encore, nous n'allions pas dans la mauvaise direction, vers le sud plutôt que l'ouest. Reno et Ogden étaient reliés par la voie ferrée à l'époque de Jack London, donc ce devait toujours être le cas, bien entendu, et contrairement à nous, London avait de la bouteille. Il savait ce qu'il faisait. Une heure s'était écoulée et nous avions à peine quitté Ogden. Notre train composite continuait de s'arrêter fréquemment et pour de longs intervalles. Finalement, le train repartit avant de s'arrêter de nouveau, peu de temps après, sur une double voie. De chaque côté, il y avait une église mormone sans clocher. J'essayais de me convaincre que c'était pour ça que j'étais venu, pour voir et être brûlé par ce que j'avais vu. Et il est vrai que la tristesse ne m'envahissait pas comme elle le faisait dans les aéroports, les centres commerciaux ou cet hôtel de Cheyenne aux cartes en plastique. Je sentais que l'Utah, quoique souvent laid, demeurait réel. Si ce n'était pas ça ce que je voulais, alors quoi ? J'aurais pu demander à aller plus vite, mais dans ce cas, pourquoi ne pas capituler une fois encore devant les empiétements efficaces des agents de sécurité ? Je ne ressentais pas le besoin d'être chez moi, sans quoi je ne serais jamais parti pour commencer. Que cherchais-je donc ? En un instant et pendant un instant, j'eus ma réponse lorsque je vis parmi les raffineries, dans une ruelle bordée de pelouses vertes, juste derrière la clôture de la Union Pacific, un garçonnet blond et une fillette blonde qui s'apprêtaient, en maillot de bain, à entrer dans leur petite piscine. Puis des courants d'air chaud et chimique caressèrent mon visage et nous arrivâmes dans une zone de vieilles maisons, d'entrepôts et d'herbes brunes, à mesure que le train accélérait enfin la cadence et s'avançait entre des champs marrons et des peupliers saupoudrés d'argent. Aurais-je passé ma vie dans cette rue aux pelouses vertes ? Ou même serais-je venu de très loin pour visiter la maison où vivaient ses enfants ? Que de les voir ainsi dans la piscine n'eût rien signifié pour moi au-delà des associations d'idées personnelles qu'ils m'auraient inspirées. Mais parce que j'avais chaud et soif et qu'ils étaient dans une eau bleue, parce que j'étais momentanément conscient de ne savoir ni où j'étais ni où j'allais, parce qu'il était improbable même, si j'avais pu me repérer d'une manière un tant soit peu efficace, que je revienne un jour ici, encore moins que je revoie ces enfants, encore moins que j'apprenne ne fût-ce que leur nom, parce que je ne les avais aperçus que par hasard sans même pouvoir décider de la durée de cette rencontre, parce que, fruit d'un autre hasard, le garçon ressemblait à celui que j'avais été, parce que cette fillette, bien que ne ressemblant pas à la petite sœur que j'avais eue puis perdue, restait tout de même sa sœur et avait à peu près le même âge que lui, plus vieille ou plus jeune, je ne me souviens plus. Pour toutes ces raisons, je fus pris d'une sorte d'empathie radieuse, presque complètement vierge de toute tristesse, si bien que dans ces enfants, je ne me voyais même pas consciemment. Pendant ce bref instant, ils incarnèrent une existence parfaite de bonheur et de sérénité que sa propre fiction sentimentale ne pouvait ébranler. Car voyez-vous, ils allaient vraiment être heureux dans cette petite piscine en plastique. Et ils se tenaient par la main, alors que moi, j'avais la gorge sèche, que j'avais mal à la tête à cause de la soif et que je repartais. En fait, j'étais déjà parti.
C'est le grand tout de William Tanner Volman.
Oui.
C'est un roman.
Oui, c'est un roman, c'est aussi une sorte de reportage. C'est un homme qui...
C'est très fouillé.
Très fouillé, qui fait ce voyage et en même temps qui rencontre tous ces hobos, là, tous ces gens qui vivent dans ces trains, des sortes de SDF, mais à l'échelle de l'Amérique. Et évidemment, il y a toute une part de la description humaine et de ce qui fait aussi ce pays. Et c'est vrai que c'est un homme qui fait beaucoup de choses comme ça. Il est allé sur des terrains de guerre aussi. Donc en même temps, c'est une sorte de roman-fiction, en même temps, essai. Enfin, c'est très intéressant, c'est la sociologie. Enfin. Et cette chose m'intéresse parce que moi, je suis sur un travail, en effet. D'abord, je suis passionné par les États-Unis. En plus, je connais bien ces coins, là, d'Ogden, de Missoula, enfin, de l'Utah et d'Idaho. Et c'est, mon histoire, elle se passe là-bas. Donc j'essaie de lire en ce moment pas mal de choses pour alimenter l'écriture parce que... C'est l'histoire de trois Français qui partent 30 ans trop tard là-bas, dans un rêve enfoui et trop tard, vraiment. Donc c'est vrai que la partie française, elle s'est cressée facilement, elle est assez truculente même, parce que c'est un peu des bozos, ben, d'un certain niveau, mais plein de charme et plein de poésie. Et la partie américaine est beaucoup plus dure. Donc je suis allé deux fois là-bas, dans l'Idaho, enfin de Salt Lake City jusqu'à Missoula, tout ça. Mais il me manque encore de la matière pour écrire les dialogues, sachant que d'ailleurs je ne me sens pas vraiment le droit d'écrire des dialogues en général. Autant j'adore improviser en tant que comédien, mais écrire des dialogues vraiment c'est très dur. Quoi. C'est un vrai métier, quoi, dialoguiste. Comme d'ailleurs metteur en scène au cinéma. Comme... Aujourd'hui on a l'impression que tout le monde peut tout faire, ce qui est vrai aussi, mais il y a quand même des postes, je crois, clés. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire se passer une des parties de cette histoire que vous décrivez aux États-Unis ?
Parce que d'abord, je trouve que c'est une des terres encore, bizarrement, il y a la Chine aujourd'hui pour les gens plus jeunes et aussi très fascinante, ou l'Inde, mais c'est quand même encore ce rêve toujours là-bas, de l'Ouest vers lequel on va. Et c'est vrai que ça reste ce pays mythique, mythologique. Enfin, moi, je vais souvent à New York, j'adore cette ville et je m'y sens même bien. On parle toujours de l'énergie qui se dégage de cette ville. Quand j'arrive à New York, quoi, c'est cette Babylone, cette cité verticale, ce qui en est sorti de cette époque dingue, avec bien sûr tout, la souffrance... les gens qui venaient là parce qu'ils étaient en train de crever ailleurs. Mais on se sent là-bas, c'est ça, on est un parmi les autres. Et en même temps, ça vous donne une sorte de force, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans... Surtout nous, les enfants gâtés, malgré tout, parce qu'on a été des enfants gâtés, on ne s'en rend pas compte, mais on l'a été. Bien sûr, il y a beaucoup de misère aussi chez nous, mais on ne se rend pas compte ce que c'est que le monde. Et je ne parle même pas de l'Inde, ou des pays d'Asie, ou d'autres... Ou d'Afrique, bien sûr, simplement. Qu'on a bousillé en partie, d'ailleurs. Et puis, c'est un espace infini, quoi. C'est un espace... Tout prend une autre dimension.
Par quoi on termine ?
On termine.
Quelle musique ?
On est obligé de terminer, hein. Il faut toujours terminer, c'est ça. Oui, c'est. Ça sera, bah tiens, Steve Reich, justement, Train.
La semaine prochaine, Pas la peine de crier vous propose une sélection très subjective de la dernière rentrée littéraire à travers la voix des auteurs qui sont passés par ici. Vous entendrez ou réentendrez Patrick Autréau, Dominique Fabre, Noémie Lefebvre, Stéphanie Pollack et Léonore de Recondo. Ce qui vous donnera, je l'espère, l'envie d'aller rendre visite à votre libraire. Tout de suite, vous avez le son, vous voulez l'image, c'est un peu gourmand mais c'est tout naturel. Eh bien, montez le son, c'est le Polaroid. Ils sont entrés en grappe dans le métro. Pas forcé la porte, mais presque. Il y avait de l'enfance débordant des fenêtres qui, rapport à la saison naissante, étaient restées ouvertes. Il y avait de l'enfance, c'est-à-dire de la matière volatile. Du rire, des mots cousus main, défaits, refaits, à la sauce bolognaise de la veille. De l'humeur haute comme trois pommes, mais remplissant l'air. De l'humeur consistante. Les premiers tenaient fort le piquet central, les autres tenaient fort les premiers. Et les institutrices ne tenaient rien que des rênes souples qui guidaient plus qu'elles ne contrôlaient l'attelage des 10 gamins. Le rythme du métro et ses saccades suffisaient à faire danser leurs corps tout à fait passifs. Parfois, leurs yeux se perdaient, tous en même temps, d'un même geste large, dans la coiffure extravagante d'une deux fois plus grande queue, puis revenaient à des seins tellement généreux qu'ils s'y seraient tous engouffrés. Ces gamins allaient comme on va en montagne, d'une seule cordée, d'une seule respiration. Ils allaient gaiement. Tu vois, pour une fois, les mots ne peuvent pas mieux dire. Ces mômes-là allaient gaiement et se foutaient pas mal de l'endroit où ils atterriraient. Voir monter et descendre autant de paires de jambes différentes toutes les minutes et demie les distrayait davantage que les écrans devant lesquels on aurait voulu les flanquer à cette heure. Après, personne ne sait ce qui est arrivé. S'il y en a eu un pour commencer, lancer l'affaire, ou si d'un même mouvement, toujours, ils se sont mis à l'eau ensemble. Bref, le métro approchait la tour majestueuse, passait au-dessus du fleuve. Bref, ces enfants ont chanté. Whisper, shut to slam, rising storm, bang, bang, bang. Who's that knocking? Why is the floor shaking? Writing on the wall, teacups breaking. Jails of flying devils. Who's that crying? Night has a pattern, footsteps rumble, mind. Pour ce Polaroid du vendredi, Miss Chanel avait choisi Blue Garden avec le titre Human Poltergeist, envoyé aux les oiseaux. 16h, bientôt 20 minutes, deuxième partie de notre émission. Entre juin 1953 et décembre 1954, Nicolas Bouvier et Thierry Vernet voyagent de la Yougoslavie jusqu'à l'Afghanistan. 10 ans plus tard, paraît L'usage du monde, livre culte de l'auteur, récit du voyage que l'on fait et observation minutieuse de ce que nous fait le voyage. 55 ans plus tard, le monde est un peu usé, mais les routes existent toujours jusqu'en Afghanistan. Elles relient les hommes malgré la guerre et la fatigue des yeux. Les emprunter, c'est se laisser reconnaître par le voyage, savoir que les deux qui nous ont précédés ont laissé des traces, mais laissé la place à celles qui n'ont pas laissé, pour qu'elles s'impriment au présent sur notre pellicule sensible. Il y a des livres que l'on referme dans le calme, car ils nous ont reconnus, et il n'y a rien de plus apaisant dans l'existence que cela. Juste avant que nous partions, nous aussi, pour quelques jours, reprenons la route en arrière. L'usure du monde paraissait, il y a 4 ans, aux éditions Bec en l'air. Frédéric Leclou, vous êtes photographe, vous en êtes l'auteur, et vous avez fait la route jusqu'à nous. Vous êtes notre invité, bonjour.
Bonjour. Saya, le voyageur, c'est lié à la notion de pèlerinage, n'est-ce pas ? Pour les Orientaux, voyager, c'est un rêve. Mmh. Tout le monde rêve de voyager. Mmh. Pas seulement vers la Mecque, mais vers bien d'autres lieux. Et c'est donc considéré comme une activité absolument respectable. Alors que chez moi, en Suisse, on me disait sans cesse « Quand est-ce que tu te mettras à faire quelque chose de sérieux ?» Pour un Iranien, rien n'est plus sérieux, par exemple, que de mettre 2 ans à gagner l'Inde. Il vous envie.
Il vous envie. 1986, c'est la voix de Nicolas Bouvier. On cherche les prétextes qu'on veut au départ ou au voyage. Il dit aussi, il écrit aussi que voilà, un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Pour vous, ça procède de quoi ce départ au moment où vous décidez ?
Il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées à maturité. Quand je décide de proposer à ma famille d'embarquer dans cette histoire-là, il y a un langage photographique qui est né, qui a commencé de se former. Il y a une envie qui remonte à l'adolescence de prendre la route de l'Inde en voiture. J'ai toujours eu envie de ça à cause de livres que j'ai lus, pas seulement L'usage du monde. Attrait aussi pour cette route des années 60 que j'ai pas connue. J'étais pas né peut-être. Chose un peu romantique comme ça. Et puis, ma femme et ma fille qui étaient prêtes aussi, pendant cette année, à se consacrer à ce projet. Et puis surtout, il y a eu la découverte de L'usage du monde avec lequel j'avais vraiment des comptes à régler, parce que j'aurais préféré régler avec Nicolas Bouvier lui-même. Ça n'a pas été possible, je ne l'ai pas rencontré. Mais ce livre a été une sorte de tremblement de terre pour moi. Donc je voulais essayer de raconter ce que ça m'avait fait avec le langage qui était là. Voilà.
Quand vous dites des comptes à régler, c'était il fallait en découdre avec ce voyage qu'il avait fait avant vous ?
Oui, mais aussi le problème était double. Le problème, c'est que ce livre avait pris tellement de place en moi que je ne parvenais plus à imaginer être en voyage sans être autant et au lieu que lui disait dans L'usage du monde. Et en même temps, je savais bien que ce temps-là est passé. Nicolas est mort. Il était mort quand je suis parti. Et puis même s'il avait été vivant, ce voyage n'existe plus. Donc il fallait créer mon propre voyage, raconter avec mon propre langage ce qui se passait et apprendre à accepter que ce voyage-là, celui de Nicolas Bouvier, c'était le sien, puis c'était pas le nôtre, et puis ça serait jamais rien d'autre que le sien, et même pour lui, c'est du passé, quoi.
Ce voyage-là, c'était vraiment le voyage de Nicolas Bouvier dont il fallait se détacher ou faire le deuil ou passer l'étape, ou c'était quelque chose d'autre qui prenait l'apparence du voyage de Nicolas Bouvier ?
Je me suis jamais demandé ça. C'est peut-être un peu pour ça que j'ai mis cette phrase de Nicolas en exergue du livre qui dit que, je ne la connais plus par cœur, mais il dit que nos entreprises comportent toute une part de supercherie qui se transforme en vérité le moment voulu. Donc j'ai peut-être été... C'est pas innocent d'avoir mis ça. Je sais bien que je suis allé chercher d'autres choses. Après, qu'est-ce qu'on cherche ? Je sais pas. Mais je suis pas du tout... Je sais bien que c'était un prétexte. Mais j'avais quand même l'envie forte d'être sur cette route-là. Les deux se mélangeaient.
Il parle de son départ comme d'un départ avec son jumeau, Thierry Vernet. Mmh. Comment est-ce qu'on choisit et comment est-ce qu'on sait qu'on part avec les bonnes personnes ?
Pour nous, pour moi, il n'y avait aucun doute. Je ne pouvais pas faire cette route tout seul, même s'il en a été question à un moment. On était une famille, on l'est toujours. Il y avait une volonté forte de montrer le monde à notre fille, qui avait 3 ans au moment du départ. Et qu'on soit 3 n'a jamais fait aucun doute. Et on a fait encore moins quand on a rencontré Eliane Bouvier, la veuve de Nicolas, qui nous a très, très gentiment. Et puis, pour nous, ça valait énormément. Pour d'autres, ça n'aurait pas eu de sens, mais donner son accord, mais quand même une sorte de dire, je comprends ce que vous allez faire, allez-y, à 3 sur cette route, vous êtes au bon endroit. Et cette chose-là, on en avait besoin aussi pour partir.
Elle parle des enfants de Nicolas, de tout ce qu'elle appelle
les enfants.
Elle
parle beaucoup des enfants de Nicolas. Elle aime bien appeler les gens qui ont suivi, qui ont aimé l'œuvre de Nicolas, ses enfants. Elle dit dans la petite préface qu'elle a consacrée à mon livre que la porte est toujours ouverte, que, et puis pour moi comme pour nombre d'autres, ce qui compte, je crois, pour les enfants de Nicolas Bouvier, c'est que Nicolas soit moteur de quelque chose de personnel, soit moteur de qu'on ne cherche pas juste à aller rechercher quelque chose qui n'existe plus, à imiter, qui vienne vous nourrir. Quand elle a compris qu'il nourrissait chez nous un besoin de créer quelque chose de neuf, de propre, elle a été très chaleureuse et très, très encourageante.
À partir de quel moment vous vous êtes dit que le passage par la maison de la veuve de Nicolas Bouvier était un passage, entre guillemets, d'autorisation indispensable ?
Tout de suite. Je ne pouvais pas imaginer. En même temps, je dis ça, si elle ne me l'avait pas donné, je pense que je serais quand même parti, je ne sais pas dans quel état. Mais je ne pouvais pas imaginer un jour Eliane trouvant ce livre, si tant est qu'il ait existé sans elle, sur l'étal d'une librairie, et puis sans avoir été mise au courant. C'était impossible pour moi. Il fallait que j'arrive jusqu'à elle. Ça n'a pas été facile, ça a été là. Il y a 2 personnes qui m'ont ouvert les portes, de belles rencontres aussi d'ailleurs. Et puis on est arrivé jusque chez elle et elle nous a accueillis pour la dernière nuit européenne de ce voyage, dans la chambre d'amis, dans la maison de colonie où elle n'habite plus aujourd'hui. On est parti de là.
Symbolique quand même.
Quand même.
Et l'avant-dernière photo de L'usure du monde, qui est donc ce livre de photographie et de texte, c'est le livre, le fameux livre. Je crois que d'ailleurs c'est dans cette édition que là, que j'ai à côté de moi, je reconnais la...
C'est la version précédente de cette édition-là. Mais le dessin est toujours le même.
Le dessin est toujours le même, quand même.
Bon, on ne va pas parler de cette collection.
En tout cas, il est lié parce qu'il commençait à se déliter un petit peu avec le voyage, avec la chaleur, la colle avait rendu l'âme. Et il est posé au bord de cette roche, surplombant une route. Il est comme ça, il est... Voilà, bon... Évidemment, c'est un objet qui porte en lui d'éminents symboles. Pour vous, on l'a compris. Est-ce que vous l'aviez toujours avec vous ?
Pendant le voyage, oui. Il a passé toute l'année sur la planche de bord de la voiture. C'est pour ça qu'il était en miettes, en poussière, à cause du soleil, des déserts iraniens et pakistanais. Mais je ne le lisais pas pendant le voyage. Je ne l'ai pas ouvert, je pense, ou presque pas. Et après, je l'ai relu un peu pour écrire le texte. Il était là. Il était là comme... Je ne suis pas très superstitieux, mais bon, ça, quand même, une sorte de talisman. Je ne sais pas comment il faut appeler ça.
Ça, plus l'histoire de l'arbre aussi, non ? Il n'y a pas une histoire de...
Ah oui, au départ, oui, c'est marrant, parce que j'ai relu ça récemment, c'est... Cette pousse de peupliers qui était venue naître dans le bac à fleurs sur la terrasse de notre première maison au moment du départ. Et le peuplier étant l'arbre favori de Nicolas. Et Eliane nous avait dit ça, c'est Nicolas qui vous fait un signe, partez.
Et vous êtes partis.
Et nous sommes partis.
Les gens que vous avez rencontrés, ce sont des gens qui, pour certains, avaient eu une traduction de ce livre-là de Nicolas Bouvier. Quel lien entretenait-il avec...
Les gens qu'on a rencontrés qui ont connu ce livre, c'était surtout à Belgrade, dans le quartier de Sajmište, qui est construit sur les bords de Save et de Danube, sur l'emplacement d'un ancien camp de concentration. Et Tito avait fait remettre à neuf ses, ces baraquements pour les donner aux artistes. Et c'est toujours un quartier d'artistes. Et donc, c'est là que Nicolas, que Thierry était arrivé un quelques mois avant Nicolas, ou quelques semaines, je ne sais pas par cœur. Et donc, c'est là qu'ils se sont retrouvés pendant ce temps-là. À l'époque, quand on a fait ce voyage, il y avait toujours un gars dans ce quartier qui avait 100 ans et qui avait connu Nicolas. Mais c'est la seule personne, plus tard, qu'on n'a, pour le coup, pas rencontré, mais qui était là, qui avait connu Nicolas. Mais sinon, les autres personnes, ils entretiennent un rapport très doux et très chaleureux avec ce livre, parce que c'est un souvenir ému pour eux de savoir qu'il y a un couple de deux copains suisses qui sont venus dans leur quartier pendant des mois, des semaines, des mois, je ne sais pas. C'est une question d'ailleurs, le temps chez Nicolas Bouvier. Et puis qui ont raconté ça de façon si belle, si juste, si lente, si précise. Ça reste quelque chose qui fait autorité pour la justesse de la description de l'époque pour les gens de Saimicht. Après, voilà, on a rencontré deux, trois autres personnes un peu moins intéressantes. Le bonhomme du centre de l'office du tourisme de Tabriz dans les Azerbaïdjans iraniens avait plutôt envie de nous vendre l'image de Nicolas Bouvier dans Tabriz plutôt que de nous ouvrir les portes de sa ville. Mon avis devait être un peu indique pour le gouvernement, quelque chose comme ça. Puis il y a eu une autre personne qu'on a rencontrée à Quetta. Quetta, qui est la ville où Nicolas et Thierry avaient... où Nicolas a perdu l'usage de ses notes. Et il a dû tout réécrire à partir de ce moment-là. Et pour gagner leur vie, ils faisaient des fresques dans un café. Ils peignaient des fresques. Et on a rencontré un des serveurs de ce café. Je lui ai fait parvenir par un ami un exemplaire de l'usure du monde quelques années plus tard. Il ne se souvenait plus qu'il avait posé pour la photo qui est dans le livre déjà. C'était bien, j'aime bien ça.
Une partie importante de l'expérience, qui n'est pas du tout celle de l'écrivain, parce que je ne pense pas du tout que les écrivains vivent des choses que les autres ne vivent pas. Ils sont les greffiers, simplement, de l'existence. Et le service qu'ils rendent, c'est de mettre par écrit des choses que tout le monde a vécues. Si par exemple je tombe sur un mot qui m'intéresse ou qui me paraît curieux, en japonais par exemple, j'aimerais savoir pourquoi on dit ça comme ça, s'il y a une étymologie, etc. Ben là je demande et puis je prends une petite note dans un espèce de cahier d'écolier minable. Et puis les grandes lectures, je les fais au retour.
Et autrement, en fait, vous engrangez toutes les impressions, vous restituez après.
Ben, c'est-à-dire je ratisse très large et je me trouve finalement avec un minuscule jardin.
Maudite insomnie. Un bruit, un rêve, un chien, une minuscule modification de la nuit, et voilà, si petite soit-elle, qu'une part de vous ne se livre plus pleinement au sommeil. Et que soudain cette part accroche une idée. Une idée dont on sent qu'elle pourrait tourner longtemps avec vous dans les draps. Si l'on tient à dormir encore, cette idée, il est de toute première urgence de l'éteindre. C'est une question de millisecondes. Mais attention, pas de brusquerie. Pas à la lance de pompier. Il ne s'agirait pas de secouer trop de chimie là-dedans et que cela s'emballe et que tout le cerveau comprenne qu'en douce on est parti à la chasse à l'idée et veuille participer. L'éteindre plutôt au compte-gouttes. Donc, et c'est bien la difficulté, avec une dépense d'énergie proche du néant, en même temps qu'une acuité et une accélération foudroyantes. que cette idée dissidente n'ait ni le temps de se propager, ni même celui de gonfler tant soit peu. Et qu'une fois oxyse, le sommeil, promptement, recontamine la part de vous qu'il venait de perdre quelques secondes. Raté, donc. Nuit de virgule. Le voyage commençait de se charger. Il nous arrivait des choses. Ce n'était pas du Mark Twain, mais ce n'était plus non plus seulement un déplacement immanent vers l'Est. Les journées s'étaient ouvertes, avaient gagné en intensité. On approchait de quelque chose. J'espérais de Belgrade.
Frédéric Leclou, on entendait d'abord la voix de Nicolas Bouvier parler de ses prises de notes et de son rapport à l'existence, et ensuite un extrait du texte qui court tout au long de L'usure du monde, qui, à mon sens, est un langage à part entière, qui n'est pas obligé de dialoguer avec les photos, qui ont aussi leur propre langage. Ce texte-là, qui est d'une immense beauté, d'une très très grande poésie, semble avoir trouvé son propre rythme. Est-ce que vous aussi, vous avez ratissé large pour faire Petit Jardin ? Comment est-ce que vous avez fabriqué ce texte-là ?
Oui, c'était à l'origine... En fait, ce livre, c'est... je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec une éditrice qui s'appelle Fabienne Pavia, qui est la responsable du Bec en l'air. Et c'est vraiment le fruit de notre dialogue. Je suis arrivé vers elle avec un texte beaucoup plus lourd que celui-là, beaucoup plus... Il y avait tout ça, et puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais voulu faire récit de voyage. Donc j'avais enrobé tout ça, toutes ces pensées, comme cette réflexion sur l'insomnie, de toutes sortes de choses plus concrètes. On a fait ceci, on a fait cela. Et puis, je suis arrivé au Bec en l'air avec mon projecteur à diapo pour montrer mes diapositives. Et puis, avec ce texte qu'on a lu un jour, puis Fabienne m'a dit, mais il faut remettre ce texte dans le... Parce que je voulais faire deux livres séparés. Je voulais faire un livre de photos. J'avais cette espèce de prétention du photographe à un moment, dire, j'aimerais bien avoir mon livre de photos où il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout, juste une page blanche à gauche, une photo à droite. Et puis, j'avais une possibilité, qui d'ailleurs a échoué avant que je rencontre le Bec en l'air, de publier ce texte séparément. Donc au début, c'était ça, c'était très gros. Et puis avec Fabienne, on a élagué, on a enlevé tout ce qui était de l'ordre de l'anecdote. Et puis il est resté des espèces de petits fragments comme ça qui viennent dire, qui en effet ne doivent pas obligatoirement dialoguer, on peut les lire séparément. Et si on a envie, on peut regarder ce qu'il y a en face ou ce qu'il y a juste avant, juste derrière, et ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Mais je ne pense pas que je l'aurais trouvé tout seul, ça, cette forme-là. C'est la ligne éditoriale du Bec en l'air. C'est vraiment une maison d'édition où le texte et l'image sont en contrepoint avec autant d'attention, une harmonie avec autant d'attention à chacune des lignes de musicales. Et là, les deux lignes, c'est l'image et le texte, et il faut qu'elles naviguent ensemble.
Bouvier, on l'entendait parler de vieux cahiers d'école pourris. Est-ce que vous avez écrit pendant cette année de voyage ?
Oui, j'ai écrit tout au long de l'année. Alors on avait... j'avais mon vieux cahier d'école pourri aussi, puis j'avais une espèce de newsletter pour un groupe d'amis d'une centaine de personnes qu'on envoyait quand on parvenait à trouver une connexion internet pour balancer ça, et qui ont servi, ces mails-là ont servi de base, plus mes notes. Après, il y a eu pas mal de mois de rédaction. On est rentré, quand on est rentré, il a... Oui, je m'y suis attelé pendant plusieurs mois, et comme je n'ai pas rencontré mon éditrice tout de suite, j'ai bien eu le temps de me plonger dans le texte.
On a parlé depuis tout à l'heure de ces traces laissées par Bouvier et Vernet, puis des traces pas laissées par Bouvier et Vernet, qui sont vos traces à présent, et peut-être d'une forme d'héritage avec lequel il fallait jouer, slalomer, en même temps être dans les traces et se rendre compte que toutes les pistes que vous suiviez s'effilochaient et tombaient un peu à plat. Est-ce que l'héritage littéraire, à proprement parler, de Bouvier, a pesé son poids ou pas du tout ?
Oui, il a pesé, il pèse encore d'ailleurs. je pense notamment dans l'écriture, mais pas que, parce que c'est Nicolas qui dit, ou bien c'est Kenneth White qui disait ça, on voyage avec nos fantômes. Moi, je voyage encore avec Nicolas Bouvier et avec d'autres personnes qui alors, c'est parfois plus léger, mais pour Nicolas Bouvier, je suis pas tout à fait sûr que ça ait marché, en fait, cette histoire, que j'ai réglé les comptes que je voulais régler. Donc, et puis, de la même manière qu'en photographie, il m'a fallu 10 ans pour me défaire de mes modèles. Alors, je ne suis pas un écrivain, mais bon, j'ai quand même écrit ces textes et on sent quand même que Nicolas est encore derrière. Il faut encore du temps, je pense, pour... Mais c'est déjà ça, c'est ce que j'ai pu faire à ce moment-là. Mais ce qu'il y avait de beau de Nicolas dans notre tête, bon, parce qu'il n'y avait pas que le poids, il y avait quand même aussi la légèreté. Il était là pour nous dire, vas-y, là tu es au bon endroit. Souvent il le disait ça dans ma tête, là tu es au bon endroit. Donc il y avait la part des choses à faire là-dedans, mais il ne pouvait pas nous laisser que du positif ou que du négatif. C'est quand même un père spirituel de taille, quoi.
Il vous arrive de voyager autrement que sur les pas, entre guillemets, de Nicolas Bouvier. Qui est-ce qui vous dit à ce moment-là que vous êtes au bon endroit ?
Il ne m'arrive plus tellement de voyager, en fait. C'est un peu ça le problème, c'est que... Le voyage me pose un gros problème depuis pas mal d'années. C'est que ce que j'aime dans le voyage et que j'ai appris chez Nicolas Bouvier, c'est de creuser, de rencontrer, de parler un peu des langues, d'aller chez les gens. Et puis vous arrivez là et vous êtes si bien que vous avez envie de rester. Donc c'est au bout du compte, le voyage, ça devient de la sédentarité. Vous voudriez que le but ultime d'un voyage comme je l'aime, ça serait de rester. Mais on peut pas rester partout. Il y a des tas d'endroits où on voudrait rester. Et puis après, comme on ne peut pas rester, il faut partir, c'est encore plus douloureux. Donc finalement, je ne vais plus qu'à un seul endroit, c'est Katmandou, où je vais depuis 20 ans et où j'ai des amis et où j'ai des activités d'enseignement et des choses qui me permettent d'avoir une vie quotidienne, entre guillemets, normale. Mais c'est tellement difficile pour moi maintenant d'aller vers l'inconnu et de devoir en partir après, que je n'ose plus.
La maladie est une des formes d'usure du voyage. Il y en a d'autres, car je considère que ce que le voyage peut vous apporter de meilleur, c'est l'usure. J'aimerais terminer ma vie arrondie comme une pierre, roulée comme un galet roulé par un torrent pendant très longtemps, et léger. Et c'est cet allègement du voyage qu'on peut atteindre dans le bonheur aussi, mais qu'on peut atteindre par l'affaiblissement physique. Oui. On abaisse sa garde, on reçoit des coups, mais on comprend beaucoup de choses aussi.
Et on a peur ?
Oui, il y a des moments où on a peur.
Frédéric Leclou, ça pourrait être le bruit des galets, comme ça, maintes fois tourné par la mer. Il dit qu'il a terminé comme ça, qu'on peut terminer comme ça, par un galet poli. Est-ce que vous diriez que vous avez terminé comme ça, arrondi par cette année de voyage ?
Non, je pense... Est-ce qu'il y a des choses qui se sont arrondies ? Non, il y avait un urgent besoin de repartir à la fin du voyage. Mais pour des mauvaises raisons, on est reparti quelques mois plus tard, deux fois, une fois à Belgrade, une fois à Istanbul, à la recherche finalement des traces de notre propre voyage qui n'était déjà plus là.
Quand vous dites que c'était insupportable de n'être plus nous, c'est ça ?
C'est ça, c'était déjà fini. Les gens, il y avait encore quelques personnes qui étaient là, mais on tombait mal ou pas. Même les gens étaient gentils, c'est pas ça, mais et accueillants, mais on avait qu'une semaine de disponibilité ou deux. Et je me rappelle, on était reparti à Belgrade en décembre, le 31 décembre, on était reparti vers Belgrade. On a voulu revoir tout le monde, on avait 9 jours devant nous, ça n'avait aucun sens. On cherchait des choses qui avaient déjà disparu. C'est peut-être maintenant que les choses se polissent un peu en ayant. finalement, en ayant repris à bras-le-corps cette histoire de photographie, d'avoir été la transposer ailleurs, parce que quand je disais que je ne voyage plus, en fait, je suis retourné voyager en Belgique depuis 4 ans. Et donc, il y a un livre qui va sortir cette année sur ces séjours-là. Et là, c'est la seule chose qui vaille pour moi, qui tienne, qui me permette d'avancer, c'est l'image, c'est continuer à faire des images pour essayer de mettre en place un univers qui tienne plus ou moins debout. Et voilà, oui.
À un moment donné, dans ce livre-là, à plusieurs reprises, vous dites qu'on reconnaît le voyage qu'on est en train de faire, et vous l'avez dit d'ailleurs, cette façon de se dire on est ici, on a raison d'être là, puis on est aussi reconnu. Et c'est étrange parce que c'est ce qui se passe à la fin du livre, en fait, quand on le referme, après toutes ces images-là dont il m'est un peu difficile de parler parce qu'elles sont, voilà, elles sont ce qu'elles sont, et c'est compliqué d'en parler, elles sont très très belles, mais il y a un effet de reconnaissance qui se passe. Est-ce que vous savez, a posteriori, maintenant que le temps est passé, ce que vous a fait le voyage ? Puisque vous l'avez fait, voilà, ça s'est fait, vous l'avez fait ce voyage, qu'est-ce qu'il vous a fait ?
Il a fait beaucoup de choses, il m'a aidé à être photographe, ça c'est sûr. Il m'a fait comprendre que je ne pouvais pas tout dire par la photographie non plus, que j'avais besoin des mots. Puis après, ça relève de l'intime, mais familialement, il a posé un certain nombre de questions importantes qui n'ont pas été résolues facilement. Il est exactement ce que Nicolas dit. Ça fait, ça défait. Mais sans lui, j'aurais pas pu. Sans ce voyage-là, la reconnaissance que j'ai eue derrière, quand des gens que j'aime m'ont dit. Là, il y a quelque chose, on sent quelque chose de fort, là, c'est bien. Ce livre est dédié à une photographe que j'aime énormément, qui s'appelle Lise Sarfati, et qui, quand elle m'a dit « c'est bien », elle n'est pas très bavarde, Lise Sarfati, mais quand elle m'a dit « c'est bien », ben, ça va. Ça fait, et ça, c'est des choses qui permettent d'avancer. Après, petit à petit, on se détache de ce genre de... On se détache de ces modèles, on parvient à avancer tout seul, mais... Ça fait quand même, c'est quand même important.
Est-ce que c'est important d'avoir un témoin de ce voyage-là qui soit une enfant, en tout cas qui a été enfant au moment où le voyage a eu lieu ? Est-ce que ça change la donne ?
Pour le moment, c'est Olga, notre fille qui était avec nous dans ce voyage. Elle en parle peu, elle en est loin. Pendant toute une période, quand on lui a demandé si elle se rappelait des choses, elle répétait toujours les mêmes souvenirs qu'elle avait un petit peu figés, qui s'étaient cristallisés. Et donc, c'est important qu'elle ait été là. Aujourd'hui, je pense que c'est très important pour elle. Elle ne le sait pas, mais c'est important pour elle. Ça, elle est ce qu'elle est grâce à ça aussi. Je serais très curieux de savoir ce qu'elle en dira quand elle aura 15 ans, qu'elle verra les photos, ou plus tard encore, que sais-je. Je crois qu'elle est contente de savoir que ça a eu lieu. Et moi, je suis très heureux qu'elle ait été le témoin de ça, bien sûr. Ouais. Parce que ça me permet d'être... je pense que ça me permet d'être un meilleur père, de savoir que... qu'elle a vu tout ça, qu'elle nous a vu dans toutes ces situations, qu'elle était là, même si elle avait 3 ans et demi, et que sa mémoire n'en sait rien, mais son cœur le sait.
Ce livre s'appelle L'usure du monde, et à un moment donné, ça fait 6 mois que vous voyagez, et vous écrivez, en fait, on ne l'a pas vu, cette usure-là. Ça fait 6 mois qu'on voyage et on ne l'a pas vu. N'empêche qu'il s'appelle L'usure du monde. Alors à quoi elle ressemble, cette usure du monde ?
On ne l'avait pas vu parce que on était tellement heureux en Yougoslavie. Et puis, bon, l'usure, on pouvait l'avoir un petit peu en Yougoslavie aussi, de façon très terre à terre, les traces de la guerre, des choses comme ça. Mais on était dans le bonheur au quotidien. Là, pour le coup, Nicolas était là quand il dit « je n'ai presque rien écrit parce qu'être heureux me prenait tout mon temps », c'était tout à fait ça. Et après, bon, je voyageais avec, pour une enfant, c'est moins problématique, mais mon épouse qui a eu énormément de mal à partir de la frontière iranienne à se sentir dans le voyage. Tout à coup, tout se renferme, tout se vit à l'intérieur des maisons, plus rien dehors, surtout pour une femme. Et donc, là, le voyage a commencé à s'user, notre envie d'y être aussi. Et les cœurs des gens, je trouvais, nous avons trouvé qu'il y avait une tristesse immense de ne pas pouvoir aller vers l'extérieur. Après, l'usure du monde, c'est aussi... C'est l'usure... On peut le faire voyager, ce titre, dans beaucoup de domaines, notamment... pour moi, c'est l'usure d'une certaine forme de voyage aussi lent qu'on pratique plus beaucoup. L'usure du sens de l'image, peut-être aussi. Ouais, il m'en coûte de rajouter 132 images sur les milliards d'images qui existent déjà. Ce n'est pas facile pour moi. Et donc... faut que ça ait du sens, mais qui suis-je pour dire qu'elles en ont. Donc c'est toute une série de choses qui tournent sans jamais vraiment obtenir de réponse, mais enfin, je l'ai quand même fait.
Et nous, on termine ce voyage dans la poésie de Zeno Bianou cette semaine, à travers des textes choisis par Laurence Courtois. Aujourd'hui, ce sont trois exorcismes sur des collages de Bertrand Dorny, de Zeno Bianou donc, qui sont extraits de Le désespoir n'existe pas. Ils nous sont lus par Souliane Brahim, Aurélien Recoing et Marion Lambert de la Comédie Française. On écoute.
Pourquoi fait-il si noir? Disent les flocons de silence qui viennent sur tes yeux. Qu'est devenue l'ardeur du grand rêve? Qu'est devenu l'appel du souffle?
Pourquoi fait-il si noir? Dit le sourire de Marilyn en étoile égorgée. Où la proximité de l'immense? Où le vent qui souffle dans la glotte?
Pourquoi fait-il si noir? Dit le visage de la nuit blanche. Cynisme, je t'exorcise, sors et retire-toi. Bêtise, je t'exorcise, sors et retire-toi. Inattention, je t'exorcise, sors et retire-toi. La tendresse est ressuscitée des morts. Amen.
Pourquoi fait-il si noir? Dit la vie qui passe comme une ombre. Qu'est devenue la danse de la parole? Qu'est devenu l'infini vivant?
Pourquoi fait-il si noir? Disent les yeux de Louise Brooks en sœur universelle. Où le souffle de bouche et de cœur? Où l'extrémité des terres?
Pourquoi fait-il si noir? Dit la nuit du monde. Fatalisme, je t'exorcise, sors et retire-toi. Dérision, je t'exorcise, sors et retire-toi. Médiocrité, je t'exorcise, sors et retire-toi. La passion est ressuscitée des morts. Amen.
Pourquoi fait-il si noir? Dit la boule de feu, perdue en eau profonde. Qu'est devenue la chair des dieux? Qu'est devenue la petite musique du sang?
Pourquoi fait-il si noir? Dit la voix de Billie Holiday en gisant éperdue. Où les notes bleues sous la pluie? Où la lenteur des étoiles?
Pourquoi fait-il si noir? Dit le soir qui se glisse en moi. Confusion, je t'exorcise, sors et retire-toi. Vanité, je t'exorcise, sors et retire-toi. Néant, je t'exorcise, sors et retire-toi. La flamboyance est ressuscitée des morts. Amen.
Before the growth starts to fade, starts to falter. Let me inside, not to wake. Let all that run through the fields, through the quiet, go on with their own hidden ways. Thank you.
Cet usage, je le relis à présent. C'est pour cette prose que j'ai compliqué ma vie depuis 10 ans. Je me demande parfois ce que j'ai pu lui trouver. N'était-ce pas un caillot comme un autre, juste un peu plus épais, mais qui, comme un autre, aurait fini par se liquéfier de lui-même? Ne serais-je parvenu à accepter ce livre qu'en en tuant la magie? Peut-être. Mais je le relis, et d'autres choses aussi, mais sans emportement, seulement ce qu'il faut. Et ce voyage, n'était-il pas si gorgé de supercherie qu'aucune vérité n'en pourra jamais prendre forme? N'y aurais-je trouvé que moi, cet impossible moi cherchant un équilibre? Il y a surtout qu'aujourd'hui, nez éponge alors que passoire aurait suffi, je perçois si violemment la catastrophe centrale que cela a représenté d'avoir figé cette route, au prix d'un affolant labeur, dans une telle parcimonie de souvenirs si faits les uns pour les autres, qu'il m'est devenu intolérable de n'être plus nous, au temps et au lieu que je viens de dire. Si bien qu'après quelques semaines d'Europe, nous avons repris, le dernier matin de décembre, la direction de l'Est. C'est comme ça que ça termine, Frédéric Leclou. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
On vient d'entendre Midlake, qui est un groupe anglais, un morceau qui s'appelle Acts of Men. Voilà.
Pourquoi vous êtes venu avec ça ?
Je suis venu avec ça parce qu'il y a, des chansons comme ça, quand elles vous arrivent, elles viennent combler un trou. Vous ne saviez pas que le trou existait. Et à mesure que la chanson, vous la recevez, bah, le trou se remplit. Puis la chanson s'arrête, le trou se vide, et puis il faut la réécouter en boucle comme ça. C'est ce qui m'est arrivé avec cette chanson. Puis petit à petit, elle dépose un peu de sédiments dans le fond, et à un moment, vous pouvez passer à autre chose. Mais il en faut quelques fois avant que ça passe.
Voilà. On a commencé cette émission par parler d'une forme de dette que vous pouviez avoir, en tout cas de compte à régler avec Bouvier. Lui, il parle de la dette qu'on peut avoir après avoir tant voyagé à l'égard de la beauté du monde. Est-ce que vous êtes aussi face à cette dette-là ?
Je pense pas. De plus, la notion de dette chez Nicolas Bouvier, y a un côté un peu protestant chez lui qui me gêne un peu avec cette histoire de dette. On y est, et on le prend comme il est, le monde, et puis est-ce qu'on lui doit quelque chose ? Je n'en sais rien. Par contre, à quelques personnes sur qui... sur qui on peut moralement, mentalement compter pour se demander si c'est juste. Ça, oui, une dette. Oui. Là, je veux bien.
Mais ce n'est pas une dette qui se règle par le voyage, celle-ci.
Non. Je ne sais pas si elle se règle, d'ailleurs.
Quel est le prochain voyage, alors ? Je sais qu'il y en a un dans pas très longtemps.
Départ à Katmandou, dimanche. Et puis, le prochain voyage, ça va être de finir ce livre sur la Belgique avec Le Bec en l'air et Fabienne Pavia et son équipe. Et après, je ne sais pas.
Il redevient possible dans votre tête ? Cette idée de partir, ça redevient possible ?
Pas pour le moment. À part au Népal, c'est très difficile. Je ne me vois pas dans un ailleurs pour le moment.
La Belgique fera l'affaire.
La Belgique fera l'affaire.
L'usure du monde, c'était publié, ça se trouve encore, j'espère.
Bien sûr.
C'était publié au Bec en l'air, c'était sous-titré Hommage à Nicolas Bouvier. Ce sont des textes que vous signez qui sont vraiment sublimes et des photos que vous signez aussi qui sont vraiment sublimes. Frédéric Leclou, merci beaucoup d'avoir fait le voyage jusqu'à nous.
Merci pour votre accueil.
Aujourd'hui, nous aurons parcouru le Grand partout, grimpé dans le métro avec les petits et toute leur enfance. Nous aurons suivi les pas de Bouvier, Vernet, les pas de Leclou surtout. Nous aurons fini sur la lumière. On vous laisse entre de bonnes mains, croyez-moi. Pour emporter cette émission avec soi dans son cœur, on se rend sur le site internet de franceculture.fr. On clique en haut à droite sur l'onglet podcast. On dit oui, je le veux. Podcast, c'est pas la peine de crier automatiquement. Normalement, ça remarche et normalement, on est heureux. Au nom de l'équipe, je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur parce que le message que vous nous envoyez chaque jour nous touche énormément. On reçoit tout intact. Aux manettes aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontanille. Merci à Laurence Courtois et Christine Bernard-Sujet des fictions. Merci à Lydia Zilberschlag de l'INA. Anne-Laure Chanel a réalisé cette émission. Bon repos, Anne-Laure. Tandis qu'elle fut comme à l'habitude préparée par Cyril Baer. Bon repos Cyril. Claire Poinsignon aussi, samedi dimanche, tout le temps, faites la planche.